Bonjour à tous, heureux de se retrouver encore parmi vous. Là. C'est toujours une joie d'être ici, et d'autant plus que si vous aviez vu mon état hier, je pensais que je ne pourrais pas être là. Et hier, j'ai vomi plusieurs fois, j'avais mal partout, j'avais les vertiges, j'avais mal un peu partout, et vraiment, j'ai dit à Maggie, il faut que Dieu fasse un miracle cette nuit pour que je sois là demain. Et je ne suis pas 100% en forme, mais Dieu a fait un miracle, et je suis là par la grâce. Amen. Voilà. Puis je suis très encouragé aussi, hein. Je pense que par tout ce que j'ai entendu ce matin, au travers des prières des uns et des autres, ce que Jean-Luc a reçu par rapport à renoncer à la mort, proclamer la vie, choisir la vie, c'est mon message. Donc c'est bien. Mais aussi plusieurs choses qui ont été dans la louange, dans les prières des uns et des autres, de la sœur, de Robert. Il y avait plein de points qui recoupaient mon message. Donc confirmation que Dieu devait faire le miracle pour qu'on soit ensemble aujourd'hui, pour entendre sa parole. Amen. Ok. Alors, je vous propose de lire un passage un peu long dans l'Ancien Testament, et on en lira un beaucoup plus court dans le Nouveau. Alors, c'est 1 Samuel 30, dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 30, et on va lire tout le passage d'1 Samuel 30. Bon, c'est un peu long, mais c'est important pour une bonne compréhension de ce qu'on va partager. Donc 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jisréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiathar, fils d'Ahimélec, d'apporter les fodes servant à consulter l'Éternel. Abiathar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit en route avec ses 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bessor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bessor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David, lui donnèrent du pain, qu'il mangea et de l'eau. Puis ils lui donnèrent quelques figues sèches et deux gâteaux de raisin sec. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea, « Qui est ton maître? D'où viens-tu? » « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tsiklag. » David lui demanda, « Veux-tu me guider jusqu'à cette bande ? Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. » Il guida donc David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient apporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. Ceux qui marchaient en tête de ce troupeau disaient « Voilà le butin de David ». David revint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bessor. Ils vinrent au devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'approcha d'eux et les salua. À ce moment, un groupe de vauriens et de mauvais sujets qui avaient accompagné David se mirent à dire « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, sauf leurs femmes et leurs enfants. Qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit « Mes amis, n'agissez pas ainsi, parce que avec ce que l'Éternel nous a donné, il nous a gardés et il nous a donné la victoire sur la bande des pillards qui nous avaient attaqués. Qui donc pourrait vous approuver dans cette affaire ? La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle du soldat qui a participé au combat. Ils partageront équitablement. » De fait, à partir de ce jour-là, cette manière d'agir fut érigée comme loi et règle en Israël. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. David rentra à Tsiklag et il envoya des parts du butin aux responsables de Juda qui étaient ses amis. Il y joignit le message suivant : « Voici un présent pour vous provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel. » Il fit cet envoi aux responsables de Bethel, de Ramoth, du Negev, de Yatir, d'Aror, de Sipmoft, d'Eshtemoha, de Rakal, des villes de Yéramélite, de celles des Kéniens, aux responsables de Horma, de Bor-Hachan, d'Atak, d'Hébron, et de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. Amen. Et on va lire dans le Nouveau Testament, Jean 11. Versets 20 à 27. Jean 11, versets 20 à 27. Dans le cadre de la mort de Lazare. Jean 11, versets 20 à 27. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. » « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. « Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissance et vie. Tu es la parole de Dieu, Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, je prie que cette parole fasse son chemin dans nos cœurs ce matin, qu'elle enlève les écailles de nos yeux, qu'elle enlève les voiles de nos cœurs, qu'elle pénètre et qu'elle fasse son œuvre, Seigneur. Qu'elle soit cette parole, cette épée à double tranchant qui sonde les cœurs et les reins, qui divise moelle et jointure et qui révèle les pensées et les motivations du cœur et qui accomplisse aussi ta volonté en nous. Donne-nous ta perspective par ta parole. Donne-nous ta vie par ta parole et qu'elle soit reçue dans la foi par ta grâce ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va commencer par l'histoire du Nouveau Testament. Alors, on connaît le contexte. Donc, Lazare est mort, l'ami de Jésus est mort, mort d'un être cher, le frère de Marthe et de Marie. Et on sait combien Jésus aimait se retrouver à Béthanie, chez Marthe et Marie et son ami Lazare. Et on sait aussi qu'il y a un contexte étrange, parce que ils ont envoyé un messager et Jésus a retardé volontairement son retour. On a dit, mais Lazare est malade, viens, viens pour lui. Et il a dit, on va rester encore plus longtemps. Ils sont restés 2 jours de plus. Bon, l'histoire montre que même si Jésus était revenu plus tôt, Lazare est mort depuis 4 jours, donc il serait revenu, Lazare serait déjà mort. C'est intéressant, parce qu'en fait, il n'a pas été poussé par les événements, mais il connaissait la volonté de Dieu, et surtout, il voulait que le nom de Dieu soit glorifié. Dans un passage, il est dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. Mais essayons d'imaginer un petit peu la situation de Marthe et Marie. Elles voient un messager qui revient, le messager de l'espoir qu'elles ont envoyé à Jésus. « Viens, ton ami est mort. » Et le messager revient. « Non, Jésus a dit qu'il ne venait pas. » Jésus, notre ami, a dit qu'il ne venait pas. Ça devait être terrible, ça. Ça devait être terrible. Comme quand il y a un lien fort entre Marthe et Marie et Jésus. Lazare est l'ami de Jésus, il y a un lien fort. Et quelle douleur ça a dû être de voir que cette amitié forte, il n'y a pas une réponse de Jésus. Il y a dû avoir toute une incompréhension et une douleur. Il est dit que Lazare était l'ami. Généralement, on parlait des disciples de Jésus. Et à la fin, dans Jean 17, Jésus il dit « Je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis. » Mais déjà, de Lazare, il est dit qu'il est l'ami de Jésus. Donc, il y a vraiment un lien fort. Et donc, d'autant plus que plus le lien était fort, plus la douleur et l'incompréhension peut être forte chez Marthe et Marie. Et déjà, dans le monde, souvent, les gens ont du mal à comprendre quand des malheurs tombent. Et on accuse souvent Dieu de tous les maux, mais quand nous sommes ses enfants et que nous sommes ses proches et ses amis, c'est d'autant plus difficile d'accepter certaines choses qui arrivent. Et ça crée une frustration, et ça crée une question qui revient. Et cette question-là, elle est très claire, c'est la question que Marthe pose à Marie, où elle dit, mais si tu avais été ici, si tu avais été ici. Vous voyez, ça c'est une question, mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est une question terrible, parce que, voilà, elle dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que nous avons parfois connu cette frustration et cette question lancinante? Mais si Dieu avait été présent dans cette situation, il ne se serait pas passé ceci et cela. Voilà, dans telle épreuve que j'ai connue, dans tel deuil peut-être, dans telle situation de relation brisée, familiale. Ah Seigneur, si tu avais été présent, si tu avais agi, ça ne serait pas arrivé. Souvent on est poursuivi, parfois pendant des années, parfois pendant une vie, par cette question lancinante. Si tu avais été ici, si Dieu avait agi. Et parfois, cette réaction, elle se transforme en, de façon presque inconsciente, où on ne l'avoue pas, elle se transforme en « Mais Dieu, si vraiment tu étais Dieu, ça ne se serait pas passé. » Vous voyez, ça peut se transformer en une crise dans nos vies où on se met à douter de la fidélité et de la bonté de Dieu. Imaginons la situation de Marthe et Marie et voyons comment nous avons réagi dans de telles situations. Si Dieu était intervenu, ces choses ne se seraient pas passées. Et si le monde accuse parfois Dieu, un Dieu qu'ils ne connaissent pas, il faut reconnaître que parfois, nous, nos enfants, nous remettons en cause un Dieu que nous connaissons, mais que nous connaissons mal. Et Dieu veut remédier à ça. Mais regardez ce qui est intéressant dans l'attitude de Marthe, c'est qu'elle ne s'arrête pas à cette parole. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Ensuite, elle dit « mais ». Après le « si » de la frustration, après le « si » du découragement, elle laisse jaillir le « mais » de l'espérance. Et dans nos situations, dans nos échecs, dans nos épreuves, dans nos deuils, le Seigneur nous appelle à ne pas rester sur le « si » de la frustration et du découragement, mais à entrer dans le « mais » de l'espérance. Et Marthe va plus loin, elle dit « mais, maintenant encore ». Maintenant encore. Vous voyez, une espérance qui naît en Marthe, qui naît de sa foi. Souvent, je pense, nous, les évangéliques, on est assez durs avec Marthe parce qu'on prend toujours l'histoire de Marthe et Marie. Ah oh, ouais, Marthe, c'est celle qui fait plein de choses pour Dieu. Mais il y a une foi en Marthe extraordinaire. Il y a une foi extraordinaire. Et elle dit, mais maintenant encore. Maintenant encore. Elle sait que Dieu peut intervenir. Maintenant encore. Tout ce que tu demanderas à ton Père, il le fera. Maintenant encore. Dieu, il n'est jamais trop tard pour Dieu pour glorifier son nom. Il n'est jamais trop tard pour Dieu pour glorifier son nom. Même dans les situations qui semblent extrêmes, même dans les situations où les choses semblent détruites, les choses semblent mortes, il n'est jamais trop tard pour Dieu de glorifier son nom. Tout ce que tu demanderas, ton Père te l'accordera. Vous voyez là, c'est comme le prémisse de ce que Jésus dira un peu plus loin à ses disciples. Il a dit, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père qui est aux cieux vous l'accordera. Et on a cette promesse en Christ. On a cette promesse. Maintenant encore, tout ce que nous demanderons au Père dans le nom de Jésus, il nous l'accordera. Est-ce que nous saisissons cette promesse? Je pense qu'il y a des choses qui sont, et tout à l'heure ça a été prié aussi, il y a des choses qui sont quelque part irrémédiables sur cette terre, voilà, comme un deuil. Bon, je pense que des fois, on peut prier pour la résurrection, si on a la foi pour ça. Mais il y a ce « mais encore », mais encore maintenant, il vient pour le ciel, parce que Dieu va glorifier son nom, mais il vient aussi sur la terre. Et même des fois dans des situations de relations brisées, de deuil, Dieu peut encore glorifier son nom. On a enlevé la... Il n'y avait pas une pendule là-bas? Je vais prendre ma pendule alors. Voilà. Donc, voilà. Mais Dieu, il veut élever notre foi pour le maintenant. Il veut élever notre foi pour le maintenant. Trop souvent, comme Marthe, on peut s'arrêter à « si tu avais été là, si Dieu était intervenu, si Dieu avait fait cela, mais maintenant c'est trop tard. » Mais Dieu veut faire jaillir le « mais » de l'espérance et le « encore maintenant » de la demande et de la supplication par la foi, qui ouvre la porte à la gloire de Dieu pour être manifestée. Je me souviens qu'il y a quelques années, avec Maggie, on était partis en vacances dans ma famille. Et puis, quelques jours après notre arrivée en vacances, Maggie apprend que sa sœur, qui faisait ses études ici dans le Nord, elle tombe gravement malade. Et elle est admise à l'hôpital dans un état vraiment très inquiétant. Et le problème, c'est qu'on avait juste assez d'argent pour assurer notre aller, notre retour pour ces vacances-là. Et donc Maggie, son désir, c'était de prendre le train pour rentrer, pour être aux côtés de sa sœur. Mais on n'avait pas cette possibilité. Si elle faisait ça, elle ne pourrait pas revenir et on n'aurait pas suffisamment d'argent non plus pour rentrer. Donc on était un peu dans l'extrémité par rapport à ça, au niveau financier. Mais Maggie avait reçu une parole, et c'est étonnant parce que cette parole sort de ce même texte. Jésus qui dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que Dieu se glorifie. » Et elle avait reçu cette parole. Et ça a été un déchirement pour elle de ne pas pouvoir être aux côtés de sa sœur. Mais ça a levé une prière aussi à cause de cette parole. Et c'est vrai que sa sœur est passée vraiment près de la mort, mais le Seigneur a fait une œuvre et dans les semaines qui ont suivi, on a pu aller la visiter encore quand elle était à l'hôpital, mais déjà beaucoup mieux. Et dans les semaines qui ont suivi, elle a été complètement rétablie. Voilà, une parole qui disait « cette maladie ne mène pas à la mort », une situation d'extrémité aussi où on n'avait pas vraiment le choix, mais Dieu est intervenu et Dieu aussi s'est glorifié là où nous apprenons à lâcher. Et maintenant, on va essayer de voir un petit peu le texte de David. Parce que le Seigneur m'a montré un petit peu beaucoup de parallèles là-dessus. Là aussi, le contexte. Non, voilà. Un contexte, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Vous voyez, là aussi, il y a un malheur qui est tombé sur David et ses hommes. Et ils sont touchés au profond de leur cœur. Marthe et Marie ont été touchés par la perte de leur frère, mais là ils sont touchés par la perte de ce qui les touche au plus proche d'eux, leur femme, leur fille, leur fils. Et je pense que tout homme est traversé quand on touche au sien, quand on touche à ce qu'il a de plus cher, sa femme, ses enfants. Et là donc il y a une percée que l'ennemi a fait, et il a emporté les enfants. Et c'est intéressant aussi de savoir que dans ce contexte, David, pourquoi ils ont pu attaquer Tsiklag? C'est parce que David était sur le point, il était parti avec, vous savez, à l'époque il était en exil, et il y avait un des chefs philistins qui le couvrait, qui lui a dit, mais est-ce que tu viendras combattre Israël avec moi? Et il a dit, mais oui, je viendrai. Et finalement ils sont partis avec ces hommes pour combattre, mais les autres philistins, les autres chefs des philistins ont dit, oh non, on veut pas combattre avec lui, parce que dans le combat il pourrait se retourner. Donc ils l'ont renvoyé, mais pendant leur absence, l'ennemi en a profité pour faire une percée et pour emporter les biens, les femmes, les enfants. Voilà, donc il y avait quelque chose que David a fait qui était une erreur, mais dans l'extrémité. Il était dans une situation extrême. Ça faisait des années qu'il vivait l'exil, des années qu'il était persécuté par Saül. Il avait trouvé cette protection. Qu'est-ce qu'il devait faire, David? Il était sous cette extrémité, mais Dieu nous dit aussi que dans la tentation, il prévoit un chemin pour en sortir. Et ils reviennent. Et ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et ils sont là dans la lamentation. Et peut-être nous aussi, on a des situations comme David où l'ennemi a volé. Et peut-être, voilà, comme dans la situation de Marthe et Marie, il n'y a rien qui était dû à Marthe et Marie. Et c'était la seule souveraineté de Dieu. Voilà, Lazare part, mais il y avait une œuvre pour glorifier Dieu. Mais dans cette histoire de David, parfois, souvent dans nos vies, c'est parce qu'on a laissé une porte ouverte que l'ennemi entre et vole. Et parfois on est dans des situations d'extrémité, de pression,
que ça soit dans le, en termes de temps, en termes de travail, en termes d'oppression, en termes de difficultés dans différents domaines. Et on pose des actes qui peuvent avoir des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences sur des relations brisées. Il y a des négligences, des fois, dans notre vie qui font des portes ouvertes pour l'ennemi de voler dans nos relations, de voler dans ce qui nous tient le plus à cœur. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu ne condamne pas David à cause de cet acte, mais il va intervenir et il va retourner cette situation comme un acte de salut et de délivrance. Dieu est le Dieu qui renverse. Dieu est le Dieu qui renverse les situations. Donc, même situation de douleur et d'incompréhension. Il crie, il pleure jusqu'à l'épuisement. Vous imaginez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà crié et pleuré jusqu'à l'épuisement. Pendant des heures et des heures, il crie et il pleure. Mais ces cris et ces pleurs produisent quelque chose. Ils produisent l'amertume dans le cœur des hommes de David. Et de quoi il parle? Il dit, on va le tuer. Vous voyez, de la même façon qu'il y avait la mort dans l'histoire de Marie et Marthe, la mort hante, l'esprit de mort hante, parce qu'il y a la frustration, parce qu'il y a la douleur, l'incompréhension. Mais voilà, David, si tu avais été là, si on avait été ici, si tu n'avais pas fait cette erreur d'aller là-bas, nos femmes et nos filles seraient encore avec nous. La ville n'aurait pas été prise. Il y a la même accusation qui est là, il y a la même frustration, la même question qui monte dans les cœurs et qui produit la mort. Parce que du temps de Marthe et Marie, si elles restaient dans ce deuil, c'était la mort. Mais Dieu a fait intervenir la vie. Il a ressuscité Lazare. Et à chaque fois que ceci prend le pas et ne laisse pas sortir le mais de l'espérance, c'est la mort qui entre. C'est la mort qui règne. Et la mort est sur le point de régner. David va être tué par ses soldats. Ils veulent le lapider. Lui qui a fait toutes ces choses avec eux, toutes ces razzias, qui a formé ces guerriers, qui a vu de grandes victoires, même dans l'exil, ils sont prêts à le tuer à cause de cette frustration, de ce découragement et de cet esprit de mort qui entre. Mais il y a une autre attitude. Il y a une autre attitude. Comme Marthe, si tu avais été là, mais ensuite, mais maintenant encore. Et il y a une autre attitude, c'est celle de David qui choisit la vie. Et il est dit que David puisa en l'Éternel de nouvelles forces. Il se tourne vers son Dieu. D'autres versions disent, il se fortifia dans la foi en son Dieu. Il se fortifia. Il y a un choix décisif là de David qui ne reste pas sur la blessure. Et dans toutes ces histoires, on voit qu'il y a un temps. Il y a un temps pour crier et pleurer, il y a un temps pour mener le deuil. Dieu est un Dieu qui sait ce dont nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. Il a envoyé son fils Jésus qui a vécu comme nous sur cette terre, qui a souffert dans sa chair. Il sait et il ne condamne ni nos pleurs, ni nos deuils, ni nos incompréhensions, ni nos douleurs, mais il y participe. Mais à un moment donné, il y a un choix décisif qui renverse les choses. Il y a ce « mais » maintenant encore de Marthe. Et là, il y a le fait qu'il se fortifie en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et ce verset est un verset qui va renverser les situations, qui va permettre à Dieu d'entrer et de renverser les situations. Et parfois dans nos vies, nous rencontrons des situations comme celle-là, où nous sommes confrontés au deuil, confrontés à des relations brisées, confrontés à ce que l'ennemi a volé, emmené, et il y a la douleur, il y a l'incompréhension, il y a les pleurs, mais à un moment donné, il y a un choix. Est-ce que je vais cultiver la blessure? Et souvent, Maguib dit que voilà, elle voit des chrétiens qui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est vrai, parce que nous continuons de cultiver la blessure pendant toute une vie, de revenir en arrière sur ce qui est entré, ce qui a été volé, dans une relation, dans une épreuve, dans une déception, dans un échec, dans un deuil. Mais Dieu à un moment nous dit, ne cultive plus la blessure, mais choisis la guérison qui est en moi. Et c'est ce que David va faire. Et à partir de là, Dieu peut entrer et va renverser. En un jour, Dieu va renverser le destin de David et va renverser le destin d'une nation. On sait que juste après, Israël va être vaincu par les armées des Philistins. Mais Dieu va utiliser ça pour que David soit appelé à régner et il va relever Israël. Parce que David fait ce choix décisif de la vie et pas de la mort, le Dieu de résurrection entre et agit par la puissance de sa résurrection. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe, parce que je pense qu'il y a des... Effectivement, il faut se tourner vers Dieu, se fortifier en Dieu, mais Dieu, à travers cette histoire, nous montre des étapes. Il nous montre une marche à suivre. Il nous montre quel acte poser. Premier acte, il y a un chemin qu'on peut emprunter pour entrer dans la puissance de résurrection de Dieu. Et je pense que quelques pistes nous sont données là qui peuvent être très concrètes pour nos vies. Première chose que David fait, il consulte Dieu. Voilà, il se relève, il est fortifié, et maintenant il dit, c'est vrai, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai vu la réalité de la situation qui est très réelle, mais maintenant je vais consulter Dieu, et je vais voir comment lui voit la situation. Et il laisse entrer la perspective de Dieu. À chaque fois que nous avons une douleur, un souci, la parole nous dit, transformez vos soucis en prière. Transformez vos soucis en prière. Et ça, c'est le début du chemin de la paix. Et ça, c'est le début du chemin par lequel Dieu va entrer pour agir. Transformez vos soucis en prière. Deuxièmement, entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Et recevoir sa perspective. Et vous voyez, quand David y fait ça, il y a deux conséquences très frappantes. Première conséquence, ça stoppe immédiatement l'esprit de mort. À partir du moment où David y fait ça, ces hommes ne parlent plus de le lapider. Je sais pas, ils avaient peut-être déjà pris les pierres dans les mains, là. Ils étaient prêts à lapider David, voilà, tu es le responsable de tout. À partir du moment où David fait ça, ces hommes ne parlent plus de le lapider, mais l'esprit de mort est stoppé et il y a un esprit de vie qui entre. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que ça change notre cœur. Ça change peut-être pas tout de suite la situation, mais ça change notre cœur. La paix de Dieu entre, la perspective de Dieu entre, la parole de Dieu entre, et ça change notre façon de voir la situation. Et ça, c'est le début de la victoire qui permet à la puissance de résurrection de Christ d'entrer. C'est le début d'un cheminement. Vous savez, ce psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Ça fait entrer l'espérance du chant d'allégresse même dans les semences avec des larmes. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, alors qu'on était en prière pour la Centrafrique, on était en train de bâtir des 40 jours de prière pour la Centrafrique, enfin c'était un peu avant d'ailleurs, mais il y avait la Centrafrique, on priait beaucoup pour la Centrafrique, et Maggie a eu un accident, elle a pris sa main dans la tondeuse. On faisait le jardin au château, et elle a stoppé la tondeuse pour enlever l'herbe, et à ce moment-là, bien que la tondeuse ait été stoppée, la tondeuse est repartie, inexplicablement, et a happé sa main. Et donc, elle est arrivée avec sa main comme ça, complètement ensanglantée, on l'a amenée à l'hôpital de Seclin, on connaissait pas SOS Main, donc on est allé à l'hôpital général de Seclin, au CHR. Et puis je l'ai vite déposé avec la femme de Chris aux urgences, et moi je suis allé garer la voiture. Et tout ce temps, un petit peu, j'étais sous la pression, pas le temps de prier, on avait juste peut-être proclamé une prière quand on a vu la main de Maggie, mais très court, et c'était tout dans la précipitation, l'amener le plus vite possible aux urgences. Et en fait, elle avait deux doigts bien sectionnés, mais deux autres qui étaient complètement... Il y en a un qui tenait plus que par un lambeau de chair, deux autres, c'était les os étaient sectionnés complètement, et il y en a un qui tenait juste par un lambeau de chair, comme ça. Et j'arrive pour garer la voiture, après les avoir déposées, et là... Juste avant de descendre dans la voiture, avant de me précipiter pour aller aider là-bas, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, voilà, tu vois la situation, mais toi, qu'est-ce que tu dis de la situation? Et alors, à ce moment-là, j'ai reçu une parole très claire dans mon esprit qui dit, source de vie, source de vie. Et ça a impacté, cette parole de Dieu a impacté mon esprit et j'ai saisi cette parole de vie, source de vie. Et à partir de là, je disais à tout le monde, mais... Ne priez pas pour juste que ça aille un peu mieux, priez pour la guérison totale, parce que moi j'ai cette parole de Dieu, source de vie, et je sais que Dieu va rétablir complètement Maggie. Et j'étais tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des gens, Dieu a fait un miracle, il y a des gens qui nous avaient pas contactés depuis très longtemps, qui ont appelé pour avoir de nouvelles ce jour même. Ils ne savaient pas ce qui se passait ce jour même, un appel de Hong Kong, un appel des États-Unis, un appel d'Angleterre. et un quatrième appel, je ne sais plus d'où, mais de personnes qui ont dit « Ah, tiens, comment vont Jean et Maggie ?» Et on a pu leur dire ce qui se passait. Et ils ont levé la prière. Mais moi, je dis « Mais dites-leur de prier pour la guérison totale, parce que j'ai cette parole, source de vie. » Et après ça, il n'y a pas eu la guérison instantanée de Dieu. Il y a eu les souffrances, il y a eu les chirurgiens qui sont venus. Le premier qui a dit à Maggie « Oh, moi, je pense qu'il faut amputer une phalange. » Le deuxième chirurgien, oui, moi aussi, je pense qu'il faut... Il y a trop de nerfs qui sont coupés, il y a de la terre dans tous les nerfs, c'est infecté, il faut amputer. Et finalement, c'est le trois ou quatrième chirurgien qui a dit « Moi, je vais tenter l'opération sans l'amputation. » Et il a fait ça. Dans les semaines qui ont suivi, ça a nécrosé. Et donc, ils n'étaient pas très optimistes. Mais après ça, Dieu est encore intervenu. Et il y a eu toute la rééducation, il y a eu toute la souffrance. Maggie pourra en parler, mais j'en parle pour elle. Mais on l'entendait crier à la maison, donc on savait. Il y avait la souffrance, il fallait la persévérance. Et c'est sur plusieurs mois que Dieu a guéri parfaitement. Et maintenant, Maggie, tu montes ta main, là. Voilà. Voilà, on voit encore un petit morceau de chair qui manque, donc le doigt, il n'a pas tout à fait la forme initiale, mais ça, c'est juste pour qu'elle se rappelle avec reconnaissance de ce que Dieu a fait. Voilà. Voilà, la parole de Dieu qui donne la vie. Quelle parole laissons-nous Dieu prononcer sur nos vies, sur nos situations? Oui, il y a les pleurs, il y a les cris, mais est-ce que nous restons dans la blessure ou est-ce que nous recevons par la foi la parole de guérison de Dieu? Source de vie. Et vous savez, dans cette parole source de vie, ça a été une parole qui a été proclamée sur le pays. Bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais en fait, cette parole est devenue une parole de vie pour la nation de Centrafrique, en fait. Et un peu moins d'un an après, on a été en Centrafrique et on a pu proclamer cette parole. Maggie a montré ses photos. Voilà, ce que Dieu a fait dans ma main parce que j'étais en prière pour la Centrafrique, il peut le faire pour la nation. Et on sait qu'à cette époque-là, alors que la nation traversait était au bord de la guerre civile, Dieu est intervenu. Et il a amené sa guérison. Donc c'était une parole de vie. Voilà, et il reçoit avec cette parole où Dieu lui dit, allez-y, poursuivez, vous rattraperez et vous ferez du butin. Je vous redonnerai tout. Donc il a une parole de Dieu, il l'a saisie par la foi. Et dans nos situations de mort, dans nos situations d'échec, dans nos situations d'épreuve, dans nos situations de relations brisées, cherchons, consultons Dieu et recevons sa parole de vie. Et saisissons-la par la foi. Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec cette parole? Bon, il ne se dit pas, oh super, il y a 10 ans, j'ai reçu une parole de vie magnifique. Non, il se met en route avec la parole. Il se met en route. Et je pense que dans nos vies aussi, il faut savoir ce qu'on a entendu de Dieu. Il faut laisser faire cette parole son œuvre en nous, une œuvre de conviction, une œuvre de vie, une œuvre de transformation. Donc il y a un rôle de prière, c'est aussi une mise en route, mais aussi c'est agir sur la parole de Dieu. C'est agir sur la base de la parole de Dieu. Il y a, en 2011, on a reçu une parole par rapport au château, j'ai déjà plus ou moins témoigné de ça, par rapport à ce que Dieu allait redonner 7 ans de redevance. C'était une histoire qui est dans l'Ancien Testament, l'histoire de la tsunamite qui revient et le roi lui redonne 7 ans de redevance qui est tout ce qu'a rapporté sa terre pendant la famine. Et on avait reçu cette parole, et on savait pas trop ce que voulait dire cette parole, sauf que à un moment donné, Dieu a montré qu'il y avait des choses qu'on payait indûment aux impôts. Et donc, sur la base de cette parole, on a prié cette parole. Mais voilà, quand on priait, c'était fort, on sentait l'assentiment de Dieu. Oui, je vais redonner. Bon, mais on aurait pu dire, ah, alléluia, Dieu a parlé, merci Seigneur. Et on aurait pu rester assis. Mais non, il fallait faire les démarches aux impôts, il fallait visiter les impôts, il fallait écrire des courriers. Et quand on arrivait aux impôts, on nous disait pas « Alléluia, oui, Dieu vous a parlé, soyez bénis, mes frères ». Non, on nous a pas dit ça, on nous décourageait, on nous disait « Mais non, mais c'est normal ». D'ailleurs, si vous payez plus cet impôt-là, vous allez payer un autre impôt sur la taxe commerciale ou je sais pas quoi. Donc, il y avait que des paroles pas du tout encourageantes. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Ils se mettent en route, mais il y a toute une partie de la troupe là, qui est toute fatiguée, toute lassée, qui dit non, on ne peut pas aller plus loin. Oh, ils auraient pu dire, oh, mais bon, Dieu n'est pas avec nous. Regardez, il y a 200 hommes là qui ne... Bon, ils auraient pu écouter les paroles de ces 200 hommes. Oh, on va s'arrêter. Hein. Si toute l'armée n'est pas avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on n'est pas très nombreux. Vaut mieux s'arrêter, on revient. Hein. Je pense qu'on a mal entendu Dieu. Là. Non. Mais non, souvent, quand on a une parole de Dieu et qu'on se met en route, on va entendre des paroles de découragement. Et aux impôts, on entendait des paroles de découragement, mais on a persévéré. parce qu'on avait entendu et on avait laissé pénétrer la parole de Dieu. Et Dieu a agi. Et Dieu a répondu. Mais il y a un combat, il y a une lutte. Une lutte de prière, une lutte de démarche, une lutte d'actes à poser, une lutte de persévérance. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et en route, il faut se dépouiller de ce qui retient notre marche, de ce qui nous retarde, de ce qui nous affaiblit. Donc on voit que là, ils ont laissé une partie de l'armée derrière parce qu'elle les affaiblissait, elle les retardait. Elle était trop fatiguée. Et je pense qu'il faut savoir se dépouiller de toutes ces paroles de découragement qui viennent soit de nous, soit de nos cœurs, soit de notre incrédulité, soit des gens. Hein, vous n'avez pas remarqué ça parfois, vous êtes plein de foi, là, vous partagez, waouh, Dieu m'a parlé, oui, il y a tel projet, fantastique. Vous partagez ça à un frère plein d'enthousiasme. Oh ouais, mais tu sais, Dieu m'a déjà dit ça, il y a 10 ans, on a déjà essayé, ça a échoué. Oh, là, votre foi est toute cassée, là, vous. Ah, vraiment. Mais non, il ne faut pas laisser pénétrer ça. Quand tu as entendu Dieu, ne laisse pas pénétrer les paroles d'incrédulité, qu'elles viennent de l'intérieur ou qu'elles viennent de l'extérieur. Et puis, il se passe quelque chose d'intéressant dans cette histoire. Il rencontre un Égyptien. Un Égyptien qui faisait partie des troupes qui ont attaqué. C'est vrai, il était esclave lui-même. Il avait un maître, mais il faisait partie des troupes qu'il attaquait. Et cet Égyptien va devenir leur allié. Je suis surpris que souvent, Dieu nous donne des alliés qu'on n'attend pas. Dans des situations extrêmes, Dieu nous donne des alliés qu'on n'attend pas. Et il faut savoir prier pour les alliés et il faut savoir reconnaître les alliés qu'on n'attend pas. Dans cette histoire d'impôt, au bout de quelques temps, les gens ont dit « Bon, c'est pas clair cette histoire-là avec le château blanc, là. On va envoyer un expert. » On aurait pu dire « Oh là là, un expert, là, c'est terrible. » Oh là là, on est foutu. Non, on avait prié avant. Dieu, envoie-nous un allié. Et quand on a su que cet expert venait, on a dit « Ah, mais ça va être l'allié. » Et on a prié pour qu'il soit notre allié. Et cette personne, c'est étonnant comment Dieu peut faire une fois que tu pries et que tu réalises que Dieu envoie des alliés. Vous savez, il y a cette parole qui dit « Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. » Il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. Et donc cet homme est venu et puis il nous pose des questions un peu sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc on dit clairement, voilà, nous sommes une œuvre chrétienne, prière, formation, hébergement. Et après il visite le château. Et dans sa liste, en fait, il avait le château, il y avait tant de 5 salles de bain, 20 5 baignoires avec salle de bain, enfin salle de bain avec baignoire plutôt, 20 lavabos et tout ça, et puis il voit pas tout ça, je sais même pas où c'est passé ces choses-là. C'était du temps des Béguins, du temps de la famille Béguin qui possédait le château. Et puis l'état c'était marqué bon, et puis il regarde et tout, il dit ah ouais, c'est pas... Après il me regarde, et il me sort une phrase, il me dit, voyez, cette liste, on met l'état dans lequel le bâtiment est. Vous voyez, vous êtes marqué bon. Il me dit, il y a très bon, après il y a assez bon, passable, médiocre, mauvais. Il me dit, vous mettriez quoi? Alors je le regarde, je pense que je demande la sagesse à Dieu, mais je dis, oh, passable. Il me dit, ah oui, je pense aussi que je mettrais passable. Et il met passable. Et vous savez, rien qu'avec ça, on a gagné 40% d'impôts en moins, juste parce qu'on est repassé de l'état bon à l'état passable. Mais oui, c'est sorti de sa bouche, et il m'a dit, vous mettriez quoi? Il m'a dit, ah oui, je suis d'accord avec vous, on met passable. Quand Dieu vous donne un allié, il vous surprend. Il vous surprend. Mais il faut reconnaître, appeler et reconnaître les alliés et travailler avec les alliés que Dieu nous donne, même s'ils sont imprévus. Et à partir de cet allié, vous voyez, il traite cet allié avec honneur. Traitez vos alliés, les alliés que Dieu vous donne, même s'ils sont improbables, même s'ils sont quelque chose qui vous choque, traitez-les avec honneur. Vous voyez, si David, ils avaient commencé à maltraiter cet Égyptien en lui disant « tu vas parler, mène-nous ». Bon, je pense peut-être que l'Égyptien il serait mort déjà, il n'aurait jamais pu trouver le camp. Mais ils sont poussés à traiter l'Égyptien avec honneur et ça leur ouvre la voie parce qu'ils font de l'Égyptien leur allié. Donc sachons reconnaître les alliés que Dieu nous envoie et les traiter avec honneur. Et ça nous a donné la victoire. Dans la faiblesse, il y a une grande victoire. Vous voyez, ils sont une petite armée, 400 hommes. On ne sait pas combien sont les Amalécites, mais on sait qu'il y en a 400 seulement qui échappent. Alors, c'est un petit reste. Imaginez, il devait être des milliers et des milliers. Et donc, une grande victoire. Et ils retrouvent tout ce qu'ils avaient perdu, leurs femmes, leurs enfants, toutes leurs richesses. Ils retrouvent, Dieu est le Dieu qui restitue ce que l'ennemi a volé. dans ces temps. Dieu est le Dieu qui restitue. Mais non seulement ils retrouvent tout ce qu'ils avaient perdu, mais Dieu rachète. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui restitue, il est un Dieu qui rachète. Il est un Dieu qui donne en plus. Il est un Dieu qui donne un butin en plus. Et c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe. Il est un Dieu qui donne en plus. Voilà, Dieu est le Dieu qui transforme le mal en bien. Ça, c'est une parole qu'il a donnée à Joseph. Et rappelez-vous, Joseph, il est envoyé en prison, en esclavage, après en prison. Mais finalement, Dieu transforme le mal en bien. Il élève Joseph en dignité. Il réconcilie toute une famille par des moyens extraordinaires. Et il réconcilie cette famille qui était divisée. Vous voyez, ça, c'est le Dieu qui transforme le mal en bien. Et Joseph entre dans sa destinée à cause et au travers de ses épreuves. Joseph ne devient premier ministre en Égypte que parce qu'il est passé par les épreuves, que parce qu'il a été vendu par ses frères. Voilà, et c'est ce que Joseph dit à un moment donné. Il dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Vous voyez, il est arrivé à ce niveau d'acceptation. Tout à l'heure, la sœur a parlé d'acceptation qui produit la paix. J'ai beaucoup aimé cette parole-là. De notre acceptation dépend notre paix et dépend l'accomplissement de la destinée de Dieu. On veut souvent, on pense que la destinée de Dieu, c'est un long fleuve tranquille, c'est la ligne rectiligne de nos efforts. Je vais faire ceci et puis je vais monter là et je vais faire ceci. Mais non, Dieu est le Dieu de la résurrection. Il n'est pas le Dieu de nos efforts, il est le Dieu de la grâce qui agit par la puissance de sa résurrection. Et son chemin n'est pas rectiligne, mais il a un chemin extraordinaire dans lequel des fois nous sommes au fond du trou, mais Dieu se glorifie et il nous sort du fond de la boue et il nous met les pieds sur le roc et il produit en nous un chant nouveau, un cantique nouveau de délivrance et de reconnaissance. Entrer dans notre destinée par la puissance de la résurrection de Christ, c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous, au travers de nos épreuves, par le choix de la vie, en saisissant la parole et la promesse de Dieu et en agissant sur la parole et en entrant dans la puissance de résurrection de Dieu. Et une dernière chose, qu'est-ce que je fais de la bénédiction de Dieu? Comment je gère la bénédiction des victoires de Dieu? Regardez, là, ils ont une grande victoire. Et puis après, il y a toujours des bons conseillers qui disent « Oh, mais ceux-là, ils n'ont rien fait dans la victoire, là. Hop, ils étaient trop fatigués. Allez, ils reprennent leurs femmes, leurs enfants, et puis basta. Hein. Ah, nous, on va partager le butin. » Mais qu'est-ce que David dit? Il parle avec le cœur de Dieu. Il dit « Non, pas question. Ils vont partager le même butin que nous. Ils font partie du même corps que nous. » Et vous savez, souvent la façon dont nous gérons nos bénédictions va dépendre ce sur quoi ça va déboucher. Le résultat va dépendre de comment nous gérons nos bénédictions. Quand nous apprenons à honorer également chacun, ça va changer. Ce qui fait la différence, c'est la reconnaissance. Si nous reconnaissons que la victoire est une victoire de grâce, la reconnaissance désarme notre orgueil, désarme toute tentative d'autosatisfaction. Oui, j'étais fantastique dans cette histoire. Regarde comment on a vaincu les Amalécites. Ça pouvait que créer ensuite le ressentiment. Mais nous, on a combattu. Hein, vous n'avez pas combattu. Mais Dieu ne nous appelle pas à être ce genre de chrétien. Il nous appelle à être dans la reconnaissance. Et la richesse de la grâce que Dieu donne, on peut ensuite la redistribuer gratuitement. Parce qu'on sait qu'on l'a reçue gratuitement. Si tu crois qu'elle t'appartient et si tu crois qu'elle est le fruit de tes efforts, tu vas être réticent à la donner. Mais si tu crois qu'elle a été gratuite et que tu as plein de reconnaissance envers Dieu, tu vas pouvoir la donner gratuitement. Et c'est ce que David fait. Et au-delà, il envoie avec ce butin, il envoie des présents à plusieurs chefs en Juda, à plusieurs gens qui l'ont aidé, qui ont cru en lui. Et il envoie ça à Juda. Et vous savez, on ne voit pas le résultat ici, mais plus loin, il y a les chefs de Juda qui vont se mettre d'accord après la défaite et la mort de Saül. Ils vont dire, mais on sait bien que c'est David qui a reçu l'onction. On va aller le chercher. Ils vont le chercher et ils le proclament roi sur Juda. Vous voyez, non seulement David a été secouru dans sa faiblesse, non seulement il a vu la puissance de la résurrection de Christ agir là où il y avait la mort, mais parce qu'il a bien géré la bénédiction de Dieu dans la reconnaissance, en sachant que c'était la grâce et en redonnant gratuitement la grâce de Dieu, alors il entre pleinement dans sa destinée qui est de régner sur Israël. Il n'a pas forcé sa destinée. Il pouvait tuer Saül plusieurs fois, il ne l'a pas fait. Mais à cause de son cœur, qui est un cœur selon le cœur de Dieu, qui reconnaît qui a plein de reconnaissance pour Dieu et qui laisse la grâce de Dieu agir et qui reconnaît la grâce, il devient un messager de grâce qui fait entrer, pas simplement lui-même dans sa destinée, mais beaucoup d'autres avec lui, une nation avec lui. Et peut-être Dieu, dans ton épreuve, il t'appelle à choisir la vie, à voir la puissance de sa résurrection de vie, à voir une victoire qui ne viendra pas de l'homme ni de tes efforts, mais de la grâce gratuite de Dieu. Et il t'appelle à être planté dans la grâce de Dieu et à devenir un messager de grâce. Mais comment géreras-tu la victoire que Dieu te donne quand l'ennemi redonnera ce qu'il t'a volé et quand Dieu rajoutera au-dessus? Comment tu géreras ça? Devenons des messagers de grâce et de reconnaissance à cause de ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est ça qui produit la vie chez d'autres. C'est ça qui leur donne d'entrer en contact avec le Dieu de grâce, qui ne regarde pas à qui ils sont, mais qui agit en fonction de qui il est. Devenons ces messagers de grâce et nous entrerons aussi dans notre destinée. Amen. On va prier. Seigneur, ce matin, je veux élever ta bannière, Seigneur. Élever la bannière de ton sang qui a triomphé à la croix. Je veux élever la puissance de la croix, la puissance de la résurrection et de la vie sur chacune des vies ici, Seigneur, sur chacune des situations où l'ennemi est venu à voler, peut-être à cause de nos négligences, peut-être à cause de nos fautes, peut-être dans différentes situations, Seigneur, tu vois ce qui a été volé. Peut-être il y a des années même. Peut-être que nous sommes encore et toujours dans une sorte de deuil et de lamentation de ce qui a été volé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie qu'il y ait une puissance de vie qui entre dans les cœurs, qu'il y ait ta perspective qui entre dans les cœurs, que nous puissions accepter de consulter Dieu et de recevoir ta perspective, de recevoir ta parole sur toutes ces souffrances, sur tout ce qui a été volé, là où nous sommes restés dans la lamentation et les pleurs et les cris et la désillusion et le « si tu avais été ici, si tu étais intervenu ». Seigneur, je prie que le « mais » maintenant encore, Seigneur, puisse pénétrer dans les cœurs, puisse pénétrer dans les pensées, produire la vie de Dieu. Oh Seigneur, change notre perspective, change nos cœurs par ta parole, par ta présence, par ton amour, par la puissance de ta souveraineté et de ta fidélité. Seigneur, je prie que nous te laissions entrer dans ces situations, même anciennes. Seigneur, voilà, on ne veut pas choisir la résignation, la blessure, le découragement, mais Seigneur, que ce matin, il y a un choix de vie, un choix de la puissance de résurrection de Dieu, un choix de la guérison, un choix du chemin de vie que tu as choisi et qui va nous faire entrer dans notre destinée. Seigneur, je prie ça. Je veux plus des hommes et des femmes qui soient l'ombre d'eux-mêmes, mais je prie qu'ils se relèvent et qu'ils deviennent ce que tu les appelles à être de toute éternité. Seigneur, merci pour cette puissance de vie que tu fais entrer en chacun de nous. Nous voulons la recevoir par la foi. Seigneur, nous te voulons te laisser agir. Et Seigneur, que nous puissions chercher et recevoir ta parole, que nous puissions décider d'agir sur ta parole. Peut-être nous avons déjà reçu une parole, mais qu'en avons-nous fait? Seigneur, je prie que nous soyons de ceux qui agissent, qui reçoivent de toi des directives pour poser les actes concrets de vie, Seigneur, les actes concrets qui vont permettre de reprendre ce qui a été volé. Je prie que nous ne soyons plus dans la résignation, mais dans la vie, Seigneur, dans le choix de vie et dans la perspective de vie de Christ. Et Seigneur, que tu redonnes. Seigneur, je prie que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il va y avoir des témoignages de vie. Il va y avoir des témoignages de butin qui a été arraché à l'ennemi, qui a été restitué et de ce que tu auras donné en plus. Il va y avoir des témoignages de grâce qui deviendront un message de grâce, une puissance de grâce pour quand nous parlerons autour de nous, nous serons un messager de grâce de ce que Dieu aura fait. Oh Seigneur, remplis-nous dès à présent de cette espérance et quand tu agiras, remplis-nous de cette reconnaissance qui apportera ton message de grâce et de vie autour de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour cette église aussi, pour ta destinée, Seigneur, que là où l'ennemi a volé, Seigneur, c'est le temps de restituer, c'est le temps de saisir ta parole, c'est le temps d'entrer dans ce que tu as préparé, et c'est le temps de proclamer un message de grâce et de vie qui produit les fruits de ta destinée dans tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.